Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le veau d'or, première partie.
Voilà. Que Dieu nous bénisse ce matin et saluons tous ceux qui nous rejoignent. Je propose que nous fassions deux lectures dans notre Bible. La première, nous allons la faire dans le Nouveau Testament, un texte qui est connu de tous. Nous avons dans ces paroles et bien même un petit cœur que nous chantons. Vous allez le reconnaître tout de suite. Et puis ensuite, nous passerons dans... Par-delà le principe que Jésus nous donne, nous allons donner l'explication à travers une histoire que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Alors je vais vous donner les indications ici quelques instants. Alors on commence par l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 4. Et au verset 21. Donc, évangile de Jean, chapitre 4, verset 21. C'est une réponse à une question. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà le principe que Jésus pose. Et nous allons maintenant lire dans l'Ancien Testament, je vous invite à ouvrir le livre de l'Exode. Donc, livre de l'Exode, chapitre 32. Et nous avons là une histoire étonnante, qui reste une interpellation pour les hommes de tous les temps, et je dirais certainement pour nous aujourd'hui. Livre de l'Exode, chapitre 32 et verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ces récits, ce récit en particulier auquel j'aimerais donner un commentaire, parce que c'est vrai que lorsque l'on lit cette histoire du veau d'or, je te dis, mais alors ça fait partie des temps, les ténèbres, l'obscurantisme de l'Antiquité. Eh bien, on va peut-être rejoindre ce que Jésus, dans son avertissement, lorsqu'il répond à la femme samaritaine, que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Et croyons-nous que le danger n'est pas aussi lointain qu'on le pense. Alors, je voudrais donner quelques éléments pour situer notre réflexion. On sait que Moïse est depuis une quarantaine de jours sur le mont Sinaï. Il y est parce que Dieu lui a demandé d'y être. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu va lui confier les instructions concernant le tabernacle. Il y a naturellement eh bien, des dispositions qui vont être prises pour le peuple d'Israël, et puis Moïse va donc recueillir ces informations. Je voudrais quand même vous signaler que les 10 commandements ont été donnés déjà dans les chapitres précédents. Et pendant ce temps, dans la plaine, eh bien, le peuple, comme il en a l'habitude, s'impatiente. Le peuple d'Israël s'interroge, il se dit, mais qu'est-ce que fait notre leader? Qu'est-ce que fait Moïse? Où est passé Moïse? Je pense que c'est dans la pensée et aussi dans les bouches, et ça va en crescendo dans le mécontentement. Et puis, on en vient à se dire, les uns de proche en proche, mais est-ce qu'il va revenir finalement? Il nous a dit qu'il montait sur cette montagne, mais il est peut-être passé le versant, et puis il est parti autre part, il nous a laissé finalement dans notre condition. Et on en vient naturellement à croire, au bout d'un certain temps, les jours passant, qu'il les a peut-être abandonnés. Il les a peut-être tout simplement oubliés. Alors, c'est alors à ce moment-là que tout Israël s'assemble autour de celui qui reste, c'est-à-dire Aaron, puisqu'il est le seul à rester, enfin, dans ces personnages, ces princes d'Israël, et ils vont lui faire cette demande de fabriquer, écoutez bien, une représentation de Dieu. Voilà. Ils vont finalement, derrière tout cela, eh bien, de dire, eh bien, notre prince, notre conducteur, celui que Dieu a désigné, ils étaient d'accord là-dessus, hein, pas de problème. Mais ils vont dire, eh bien, puisqu'il n'est pas là, nous aimerions quand même, nous aimerions et nous voulons maintenant, parce que ça va devenir quasiment une exigence, eh bien, on te demande à Aaron, et vous savez qu'Aaron, c'est le grand prêtre, hein, de fabriquer une représentation de Dieu qui leur permette, qui permette au peuple de croire en sa présence au milieu d'eux. Ils ont besoin, ils ressentent le besoin. Alors vous devinez un petit peu d'où vient l'inspiration, hein, parce qu'ils sont là, en effet, à vouloir quelque chose de tangible, quelque chose de visible. Alors on sait qu'à ce moment-là déjà, les promesses faites à la sortie d'Égypte, qui étaient des promesses d'obéissance, donc parole de Dieu, réponse du peuple, promesses d'obéissance, vont s'envoler en fumée. Tout ça s'est oublié. Hein. Les événements passent, Moïse partit, et puis le peuple rassemblé dans la plaine, et les deux premiers commandements du Décalogue, que je rappelle, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas d'image taillée. C'est comme s'ils n'avaient jamais été prononcés. Amnésique, si on peut dire. Ils ont complètement oublié tout cela. Et pourtant, le temps est court entre ce que Dieu leur avait demandé, ce qu'ils savaient, et ça avait été marqué avec des lettres de feu, on peut dire ça, sur de la pierre, mais tout cela, eh bien, avait déjà disparu. Comme quoi, hein. On peut être ou vite oublieux de ce que Dieu nous dit. On peut parler d'un grave faux pas d'Israël. Et force est de constater que le peuple n'est pas débarrassé de son idolâtrie. C'est terrible. C'est vrai qu'il vient de sortir de sa condition, c'est tout récent, c'est tout frais. Mais on s'aperçoit que cette idolâtrie, il l'avait vue en Égypte. Elle est déjà naturellement dans le cœur de l'homme, mais l'Empire, l'Égypte, eh bien, est un peuple, un empire tout empreint d'idolâtrie. Et on peut certainement en tirer la conclusion, la première conclusion, c'est que les Hébreux, eh bien, l'avaient emmené avec eux. Ouais. Oh, ils sont partis, ils ne sont pas partis les mains vides. Hein. Ils sont partis avec des trésors, avec de l'or, avec de l'argent, avec toutes sortes de choses, avec leurs troupeaux, avec tout ce que l'on peut imaginer, que malgré ce peuple dont la pauvreté et la misère a pu emmener avec lui. Il y avait quelque chose au fond du cœur. Ça ne se voyait pas en apparence. Ce n'est pas quelque chose de visible à premier coup d'œil. C'est qu'ils avaient emmené l'idolâtrie avec eux au fond d'eux-mêmes. Et nous voyons qu'il y a dans notre récit ce cri qui retentit, qui parcourt le camp et qui va devenir finalement eh bien, le slogan de tout le monde. Ils vont dire « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous ». Tout le monde va reprendre un peu là. Il y en a un qui a lancé l'idée et puis tout le monde va reprendre « Un Dieu qui marche devant nous ». Ils avaient oublié que Dieu marchait aussi avec eux. Mais pas de la manière dont ils le pensaient, naturellement. Et j'aimerais aborder cette notion ce matin, l'idole. qu'est-ce que ça peut être, une idole? Alors, dans une définition toute simple, je dirais qu'une idole est la représentation par l'image, la sculpture, dans ses formes grossières, ou une autre forme d'une personne, d'un animal, qui devient un objet d'adoration. De l'idole, cela a donné l'idolâtrie. Un objet d'adoration, l'idolâtrie, et la vénération, le culte de vénération qui s'y rattache. Alors bien sûr, souvent lorsque nous lecteurs de la Bible, l'idolâtrie, on se l'imagine dans l'Ancien Testament, et c'est vrai qu'elle est là, elle est devant nos yeux, mais n'y aurait-il pas une idolâtrie aussi? Alors elle existe dans notre monde, c'est vrai. Mais peut-être que, on va voir que si Jésus a donné cet enseignement, en ce qui concerne la véritable adoration à une païenne, la samaritaine, c'est vrai, mais il l'a donné aussi en perspective du monde qui allait venir, et peut-être aussi de son Église, pourquoi pas? On peut le penser décemment. Donc, l'idolâtrie, culte de vénération. Dans la pensée évangélique, ainsi que Jésus l'enseigne, et notamment dans Matthieu chapitre 6 et verset 24, il nous est dit comme ça, et c'est dit quand même, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois », et il explique pourquoi, « Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre », et avec cette conclusion toute logique qui naturellement nous apparaît, « Vous ne pouvez servir Dieu et maman ». Bon, on pourrait peut-être, si vous voulez, pour rester dans notre contexte, on ne peut pas servir Dieu et l'idole, ou les idoles, maman naturellement représentant la richesse. Pour nous dire que l'idole réside dans le cœur de l'homme. Vous avez vu les Israélites, ils avaient des bagages, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils avaient quelque chose aussi de secret. Dans le cœur de l'homme est constitué tout ce qui prend la place de Dieu ou remplace Dieu. En tout ou en partie. Mais la subtilité, c'est justement de ne pas remplacer complètement Dieu. C'est de faire la part, de faire un petit peu, de donner un petit peu à chacun. Et on sait très bien que si tout n'est pas pour Dieu, et bien alors rien n'est pour le Seigneur. On le sait aussi. Ça. Je dirais que on aurait tort de croire, et j'ajoute plutôt, on aurait tort de croire que le monde du 21e siècle, c'est-à-dire le nôtre, est plus raffiné, certes peut-être, par certains égards, que le monde de l'Antiquité quant à l'idolâtrie. Et il est tout autant, je dirais qu'il est tout autant, sinon davantage, mais voilà que les formes ont changé, parce que ça fait partie des choses. Ce qui peut-être nous laisse croire, ou pourrait nous laisser croire à l'évolution des civilisations. Que les pauvres gens de l'Antiquité, ils étaient quelque part avec une réflexion primaire, et que nous sommes évolués, que nous avons naturellement... la connaissance, on pourrait peut-être le dire. En tous les cas, les dieux adorés et vénérés aujourd'hui, on le voit et on le constate, qui mettent la créature à la place du créateur, en tous les cas, réveillent l'orgueil humain, comme hier, l'appétit insatiable de jouissance et de plaisir. Vous avez remarqué la fin de notre lecture, ils se sont levés pour manger, pour se divertir. Et on s'aperçoit que derrière l'idole, il y a aussi ce caractère. Et on ira un petit peu plus loin dans cela. Les vaudors modernes ont des millions d'adorateurs, je dis bien des millions, et peut-être, je suis en dessous de la vérité, si je peux peut-être dire, peut-être prononcer le mot milliard dans le monde. Donc, millions d'adorateurs qui se prosternent à leurs pieds pour les adorer. Qu'on les appelle mammon, richesse, argent, réussite sociale, Vénus, sport, nationalisme, idéologie d'une façon ou d'une autre, le pouvoir, la beauté, l'effort, la musique, ou tout simplement le plus intime et le plus discret parmi tous, c'est-à-dire le moi. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait entre ce que nous venons de citer, et puis ce qu'il y a au fond de mon cœur, puisque j'ai parlé de cœur. Et je soulignerai peut-être, je lui donnerai peut-être encore un autre mot, je lui parlerai de l'âme. J'utiliserai le mot d'âme, Les idoles, il y en a. Hein. Il y a quelques 3 semaines, 1 mois, au Stade de France. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Alors, ils sont tous reconnaissables à quelques traits caractéristiques et nous avons, nous chrétiens, besoin de les identifier. Parce que j'ai parlé de danger quand j'ai commencé tout à l'heure. Nous avons besoin donc de en connaître les caractéristiques, comme le veau d'or pour les Israélites. Ils sont une représentation, et je pèse mes mots, visible, visuelle, sensible, tangible, quelque chose que l'on peut approcher et toucher. Il laisse l'impression de la force, du beau, et stimule l'émotion, et l'émotion compte dans notre société aujourd'hui, on fait grand bruit de l'émotion, on exploite l'émotion. Ils sont parés d'or et de prestige. Ils sont toujours l'objet de fêtes, de grands messes, excusez-moi, de cultes, de divertissements et de parades. Rien n'est fait dans la discrétion. On est loin de la discrétion et de l'humilité du sermon sur la montagne. Ils ont un dénominateur commun, c'est que ils entraînent la passion et ils subjuguent l'âme, le cœur et l'esprit des hommes. Je dis bien subjuguer. La raison disparaît. La réflexion disparaît. La connaissance que nous pouvons avoir du vrai et du bien disparaît. Le monde est ainsi et il lui faut un objet à qui il se voue, en qui il croit, un objet qu'il peut adorer. Par contre, les chrétiens sont formellement mis en garde contre l'idolâtrie. Et ce n'est pas seulement qu'une histoire de l'Ancien Testament. C'est aussi une injonction du Seigneur dans le message évangélique. Écoutez, ne devenez pas idolâtres, c'est bien écrit. Ou encore, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas anodin que ce soit dit. Et peut-être aussi souligné dans un contexte, celui qui nous occupe. Ou encore, et je crois que Jean fait très fort dans son épître quand il dit ceci, après avoir expliqué des choses dans ce chapitre 5, me semble-t-il, et une conclusion qui arrive comme si elle arrivait comme ça par hasard, mais elle n'arrive pas par hasard, quand il ajoute ceci, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Moi, j'ai toujours été surpris de cette insertion, de cette petite note qui vient comme ça. On lit autre chose avant, puis d'un seul coup, c'est comme si c'était marqué là, comme ça. Ça intervient, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Gardez-vous des idoles. Selon la pensée de Dieu dans la Bible, le mot idole a deux synonymes, il y en a d'autres, mais deux synonymes pour le moins significatifs. C'est le mensonge et la prostitution. Vous avez fait déjà le parallèle avec ce qui nous est dit, hein, par rapport à l'adultère spirituel. Le mensonge et la prostitution. J'y ajouterai peut-être, si vous voulez, puisque j'ai dit qu'il y en avait peut-être d'autres, parce que ça me vient à l'esprit, la superstition. Et la superstition, c'est la voie à quelque chose qui nous conduit, non pas vers la réalité de Dieu, vers le bien de Dieu, vers le vrai de Dieu, mais vers ce monde de ténèbres. Alors nous reprenons le texte, et nous avons lu tout à l'heure ensemble, et vous verrez que les propos tenus par les Israélites sur un Moïse qui a disparu sont pleins d'irrespect et d'ingratitude. Ils diront ceci, car ce Moïse, pourtant Moïse c'était quelqu'un. S'ils sont là et s'ils vivent aujourd'hui, c'est parce que Moïse était là et il avait fait quelque chose. Alors, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ils étaient vraiment dans l'embarras. Vous savez, moi, ça me vient à l'idée comme cela, mais vous savez, on ne doit pas suivre un homme. Moïse fut-il, on doit suivre le Seigneur, parce que les hommes disparaissent. On ne monte pas tous sur la montagne, hein. On peut se noyer en mer, surtout ici. Mais toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que vraiment notre foi, elle est dans le Seigneur. Parce que les hommes disparaîtront, même les meilleurs. Alors, ils en arrivent à cette pensée, mais nous ne savons ce qu'il est devenu. Et l'absence de Moïse dure trop longtemps à leur sens, à leur goût. Mais lui, Moïse s'occupe des affaires de Dieu. Et pas pour lui, mais pour le peuple. Alors, ça devient trop long. Et on en arrive à murmurer, on en arrive à avoir cette aigreur dans le cœur avec ces questions du genre, mais descendra-t-il un jour de la montagne? Est-ce qu'il va descendre? Alors voilà qu'il va intervenir une chose assez troublante, et ça c'est vraiment troublant quand on prend en considération et quand on fait une analyse, parce que pour entretenir sa foi, Israël n'a qu'une parole à laquelle il doit se raccrocher. Et Moïse, avant de monter sur la montagne, leur avait laissé cette parole « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. » Ça, il avait la parole. Ils avaient entendu. Restez calme, on va revenir, faites-nous confiance. Mais nous allons maintenant à la rencontre de notre Dieu sur les sommets. Mais nous redescendrons. Remarquez, c'est un petit peu le même scénario qui se passe quand Jésus monte avec trois de ses disciples sur la montagne de la Transfiguration. Et puis, il n'emmène pas tout le monde. Mais en bas, ça bouge. Hein. Vous connaissez l'histoire? Vous vous en souvenez? Ah ouais, mais impuissance. On est prêt à faire. On ne sait pas, on discute en tous les cas. Il nous a dit que les disciples discutaient avec les scribes et avec les gens qui étaient là. Bon, ce n'est pas les discussions qui sont importantes. Hein. Parce qu'on peut discuter longtemps, ça fait 2000 ans qu'on discute sur la question. Et on continuera à discuter encore. Mais peut-être que nous avons d'autres raisons de ne pas discuter. Alors, on s'aperçoit que, je le répète, pour entretenir sa foi, Israël n'avait qu'une parole, et c'était une parole de Dieu qui avait été donnée par la bouche de Moïse. « Attendez-nous jusqu'à ce que nous venions vers vous. » Mais 40 jours, hein, c'est long les 40 jours, hein. Oh là, c'est terrible. 40 jours, 40 ans, le désert, etc., etc. Il faut résister à ce moment-là. Mais c'est précisément justement pour cela. Pourquoi est fait ces... Pourquoi sont faits ces 40 jours? Ou tout simplement, eh bien, ces tests. Moïse tiendra-t-il sa promesse? Alors, on se met à dire, et ça parcourt le camp d'Israël, tout simplement cette parole, « Nous ne savons ce qu'il est devenu. » Voilà. On en arrive, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et bientôt, il va passer dans l'histoire. De là à dire qu'il ne reviendra pas. Mais, moi je dis que l'Église fasse attention. Qu'elle fasse attention à ceci, car la même impatience aujourd'hui peut conduire à la même folie. Je parle de l'Église de notre temps. Et on en a déjà fait la démonstration. Hein. L'Église en général, la chrétienté. La même folie, précisément celle de devenir idolâtre en raison de la longue attente qui nous rattache à la promesse du retour de Jésus. Il est monté sur la montagne, le Seigneur. Il était plus loin que la montagne. Pourquoi regardez-vous le ciel? Avons-nous lu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er? Et voilà que devant la perplexité des disciples qui se disent « Mais nous ne voyons plus, il n'est plus avec nous. » Voilà des anges qui apparaissent et qui lui disent « Mais celui qui est monté au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il reviendra. » Ça se ressemble tout ça un petit peu, non? Il y a quelque chose qui doit nous montrer que ce que nous sommes aujourd'hui dans cette attente et dans cette promesse, parce que Jésus nous a bien dit « Je reviendrai. » Vous y croyez qu'il revient? C'est bien. Là, au moins, ça fortifie la foi. Eh oui, Seigneur revient. Le Sauveur tarde dans le ciel depuis plus de 2000 ans. Alors, c'est pas 40 jours, hein. Imaginez-vous, 2000 ans. Et nous, chrétiens, qu'avons-nous, sinon les promesses divines de sa seconde venue? Alors, on connaît bien sa première venue, parce que c'est ce qui fait que nous sommes là. Mais la seconde. Et ses promesses, simplement, elles nous ont été données, c'est sa parole, pour nourrir et soutenir notre foi pendant cette attente. Parce que nous n'avons pas autre chose. Nous vivons de quoi ? Nous vivons dans l'espérance que le Seigneur revient parce qu'il nous a dit qu'il revenait. Tout simplement. Mais voilà que des pans entiers du christianisme se sont déjà écroulés, voire effondrés lamentablement dans une idolâtrie vulgaire où le Dieu vivant est vrai, eh bien, dans lequel on ne croit plus parce qu'on ne le voit pas. Et on ne croit même plus à ce qu'il a dit. Et pourtant ce Dieu, comme nous l'avons lu dans l'Évangile, ce Dieu qui veut être adoré seulement en esprit et en vérité. Et quand je parle d'effondrement de cette chrétienté, elle est autour de nous. Elle est autour de nous dans les grandes dénominations du christianisme. Ce n'est pas un jugement que je porte, c'est une constatation de fait. Nous-mêmes nous souvenons d'où nous sommes issus. Nous avons abandonné les idoles pour adorer et pour servir le Dieu vivant. Est vrai, n'est-ce pas, ce que nous avons fait? Mais il peut toujours y avoir la tentation d'un retour. Vous savez, il faut garder les choses. Et nous nous apercevons que cette affirmation a été remplacée sans scrupule, la vérité était remplacée sans scrupule, vérité biblique, par une monstrueuse imposture qui n'a d'autre exemple que la fabrication du veau d'or dans les plaines du désert. Et c'est souvent dans le désert qu'on est tenté, non? N'est-ce pas? Et vous savez, le désert, c'est quoi? C'est le vide. Eh bien, quand le vide n'a pas été rempli par le Seigneur lui-même, par sa parole, par ses promesses, alors à ce moment-là... Tout est permis. Hein. C'est pour ça qu'il faut remplir le vide de nos cœurs. Qu'il faut remplir le vide de l'Église. Et par le Seigneur, pas par des certitudes, par des inventions ou des fabrications de notre cru. Hein. Les plaines du désert, ben voilà. Et je pense qu'il y a parfois des chrétiens qui passent par les plaines du désert, qui veulent bien regarder encore de la montagne en disant, mais bon, oh là là, ça me donne le vertige. Non, non. Et c'est ça la tentation. Mais ça ne change rien. Et tout cela parce que nous ne voulons pas attendre, parce que nous ne savons pas attendre. Je crois qu'il y a une vertu chrétienne cardinale. C'est vrai, c'est la foi associée à l'humilité et à la patience. Ce que je ne comprends pas, Seigneur, eh bien, tu ne me demandes pas tant de comprendre que de croire à ce que tu me dis. Mais c'est vrai que nous sommes souvent handicapés avec notre raison, hein, et nous voulons comprendre. Mais il y a des choses qu'il faut les croire, tout simplement. Simplement. Parce que Dieu ne manquera pas de réaliser ce qu'il a promis. Alors, ce vaudeur, en l'occurrence, s'appelle idolâtrie religieuse. On le voit. Parce que tout est là pour nous prouver, tendre à nous prouver que c'est ainsi. Idolâtrie religieuse, parce qu'à bien lire le texte, on remarque ceci, et je relis le verset 2 et 3. Alors, Aaron leur dit, et les mots pèsent, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Essayez de faire la même chose. Miracle. Extraordinaire. Vous allez venir me voir et vous allez me donner vos montres et tout ça, et puis on va faire la démonstration cet après-midi quand on aura un petit moment. Mais, vous vous rendez compte, c'est miraculeux. Vous jetez ça comme ça et puis voilà. Et puis ça sort en veau. C'est curieux quand même. Israël, voici ton Dieu. Qui ? Toute la subtilité est ici. Un veau associé à Dieu. Ou à un Dieu. Cette idole qui n'est que poussière de bois ou particules d'or et peut-être même d'autres éléments, mais peu importe, ça ne nous intéresse pas, n'est pas nommée en la circonstance Baal. Elle n'est pas nommée non plus Moloch ou Astarté. Elle n'est pas nommée des dieux de l'Égypte. C'eût été grave. Mais ce qu'ils ont fait, c'est encore plus grave. Je dirais que c'est gravissime et c'est sacrilège de faire porter à un objet inanimé qui sort comme par enchantement le nom sacré de l'Éternel. Et c'est ça, justement. Ça dépasse notre entendement. C'est odieux et un outrage. Parce qu'encore, ils auraient donné un nom de la mythologie. Mais là, ça va encore plus loin. Identification. Avec et mettre le nom. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Aaron. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'Aaron. C'est un homme choisi par Dieu. Aaron, c'est un drôle de personnage quand même. Il pose question. Aaron, et j'ajoute ceci par faiblesse, parce que c'est ça le problème, la faiblesse du cœur de l'homme. Quelle faiblesse as-tu eu dans ton cœur? Par faiblesse, se disant que c'était probablement le seul moyen d'empêcher le peuple de retourner ouvertement dans le paganisme grossier, va tenter de récupérer pour l'Éternel cet élan de religiosité aveugle. Et c'est là le problème. Il va se dire, ils sont en train de partir, là. Ils partent un peu à la dérive, hein. Le peuple de Dieu part à la dérive. Alors qu'est-ce que l'on peut faire pour y remédier? Alors lui essaie de penser. Ah oui, mais ce n'est pas ce que nous pensons qui est important, c'est ce que Dieu pense qui est important. Alors avait-il peur, craignait-il l'impatience, les craintes? Ça nous fait faire des sottises parfois. Et ça nous en fera toujours faire. Alors il se dit que pour arrêter cette grossière dérive, eh bien, il va essayer, lui, de mettre une main charnelle, récupérer pour Dieu. Parce qu'il voit bien qu'il y a un élan religieux qui la superstition à ce moment-là. Hein. Et à l'image qui a été façonnée, qui est sortie comme par enchantement là, de ce moule, Aaron va avoir l'audace, oui je dis bien qu'il est plus certainement dans la note, hein. Il va avoir l'audace d'attribuer les hauts faits du Dieu vivant eh bien, à ce qu'il a devant lui. Et il dira, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et si vous me permettez, c'est tout à fait personnel, mais c'est une imposture monstrueuse. Mais où il en était rendu à Aaron? Il était le prince d'Israël. Il était l'homme qui avait été investi des pouvoirs de la sacrificature, souverain sacrificateur, le premier. Et ça part mal pour un premier, hein. Et peut-être que dans l'histoire, toute cette catégorie d'Aaron, ben, ils ont fait les mêmes œuvres qu'à Aaron, hein. C'est terrible ça, l'imposture monstrueuse dans ce désert. Le Dieu d'Israël qui ressemble à un bœuf. C'est choquant, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour moi, c'est... Quelle dégradation et quel effondrement de la notion que nous pouvons avoir. Et pourtant, c'est une vieille histoire. Mais est-ce que vous ne croyez pas que dans le monde et dans le monde religieux, on ne fait pas la même chose. Ça m'étreint le cœur de voir des hommes et des femmes, des jeunes gens, oui aussi des jeunes filles, des personnes âgées, qui sont trompées et qui sont là à se prosterner devant tout ce qui peut leur être présenté. Et en l'absence de la connaissance, de la véritable connaissance de Dieu, parce que on leur a retiré des mains la parole et le livre de la révélation. Quelle dégradation. Et ils sont sincères. Mais vous savez aussi bien que moi, sincérité ne veut pas dire vérité. On peut être sincère dans l'erreur. Folie de l'esprit humain. Paul le souligne, vous savez, ce fameux Paul, quand il arrive à Athènes, lui aussi ressent quelque chose. C'est un homme rempli d'esprit, hein, Paul. Et il dira, quand il a mis les pieds à Athènes, il a dit que quand il s'est promené, quand il a regardé un petit peu autour de lui, c'était pas du tourisme qu'il faisait, mais il a quand même regardé. Il a dit qu'il a senti son esprit s'irriter à l'intérieur de lui-même, à la vue de ses idoles. Alors Paul, il pourra l'écrire en lettres de feu. Il écrira ceci dans Romains, au chapitre 1er, au verset 22. Et on sent toute une révolte, et puis aussi une misère, une souffrance profonde. Et il dira ceci dans ses mots, je peux lire avant un peu, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. » Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors la suite, vous pourrez la lire. Je ne sais pas si elle est édifiante, mais en tous les cas, elle est la conséquence. Folie de l'esprit humain. Idolâtrie religieuse qui perdure, qui a traversé les siècles, mais qui est quand même néanmoins une insulte au Dieu vivant et vrai, au Dieu créateur, qui a fait l'homme à son image. La créature se dégrade. La créature qui dégrade l'image de son créateur. Idolâtrie qui renferme Dieu de l'univers dans un tabernacle. C'est très restricteur. Vous vous rendez compte ? Soit-il adoré dans une cathédrale, dans un sanctuaire de pierre, un dieu que l'on moule dans du plâtre, dessiné sur des vitraux, auquel on a fait un visage, un corps, une allure d'homme. Et si vous voulez vous en convaincre, il y a un texte tout à fait approprié pour cela. Et bien vous lirez Ésaïe chapitre 44. Et je dis que Dieu se rit. Dieu a certainement des raisons d'être triste, mais il se rit. Je vais bientôt finir. L'évangile est la religion de l'esprit. Celle de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux et celles qui, par la connaissance qu'ils ont de la volonté de Dieu, par sa parole, eh bien, appartiennent réellement au Seigneur. Quand le veau d'or, sous ses formes dont nous avons parlé il y a un instant, dit toutes sortes de choses, l'Évangile dit, lui, croyez. Il nous dit, croyez. Et les religions qui, peut-être, sont issues, peut-être même, de cet Évangile, que l'on appelle un catholicisme, avec le respect pour ce que je peux avoir pour les hommes, on n'est certainement pas d'accord avec le système, mais pour les hommes, mérite notre respect. Nous en faisions partie auparavant, naturellement. Que ce soit l'orthodoxie, l'hindouisme, en passant peut-être les frontières de la chrétienté, et d'autres encore, sont des religions de l'âme. Ouais. Des religions de l'âme. Elles disent toutes « voyez », alors que l'Évangile dit « croyez ». Elles disent « voyez ». C'est le monde du toucher, c'est le monde du voir, c'est le monde du sentir, c'est le monde de l'émotion, c'est le monde du sensitif, c'est le monde du sentiment. Et c'est pourquoi il y a tout autour de cela, eh bien, toute une organisation qui fonctionne. Alors il faut un autel, il faut des cierges, il faut des messes, il faut des crucifix, il faut des chapelets, il faut de l'eau bénite, il faut des signes de croix, il faut des images, il faut des statues, il faut des processions, des pèlerinages, des apparitions, des cathédrales et tout, des prêtres, des papes et des gourous. Eh oui. Et on appelle ça la vérité. Méfions-nous. Frères et sœurs, parce que ce que je dis, ce que nous partageons ce matin, pourrait très bien nous arriver à nous aussi. Si nous ne veillons pas. C'est arrivé à d'autres avant nous. Hein. Et je pense qu'il faut que nous soyons sages quant à l'histoire. On ne peut pas faire un pas sur l'histoire. Alors, enlever tout cela à ces religions, et elles ne sont plus rien. C'est pour ça que les gens disent, ça va. Quand ils viennent, peut-être dans nos milieux, ils se disent, mais il y a... Le principal, c'est que le Seigneur soit là. Ouais, c'est vrai que c'est assez dépouillé chez nous. C'est pas demain la veille que vous verrez en soutane. Hein. Bon, c'est entre nous. Ma femme serait surprise aussi. Alors, enlever tout cela à ces religions, elles ne sont plus rien. Et ce n'est certainement pas Jésus qui tient la première place. Il y a tellement d'autres dans le paradis de ces religions. Tellement d'autres intermédiaires, auxiliaires, médiateurs, médiatrices et tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas Jésus. Pourtant, le Seigneur l'a dit, hein, je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vie. Oh là là, vous connaissez bien votre leçon. Nul ne vient au Père que par moi. Tout simplement. Il faut à tout prix du visible. Et n'y a-t-il pas malédiction à vouloir s'approcher de Dieu avec nos sens naturels? Dieu dit, cette parole, tu ne pourras voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Et puis, je termine sur cette parole. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il a raison, Jésus, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est comme si ça n'avait jamais été écrit. Mais pour nous, c'est écrit. Et nous gardons cette parole. Alors, on verra ça une prochaine fois. Hein. Parce qu'il y a plusieurs volets dans cette étude. On verra ça. Le péché d'idolâtrie corrompt l'homme. Parce qu'il y a des conséquences, c'est pas anodin tout cela. Le verset 5. Aaron bâtit un autel et il s'écria, il l'a dit bien fort hein, pour que tout le monde entende. Hein, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices, tout y est hein, en apparence. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Et ils se levèrent pour se divertir. La fête en l'honneur de Dieu, de ce Dieu saint, dégénère en orgie et en débauche. Et là, en guise de sacrifice, on n'hésite pas à sacrifier la décence et l'honneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. En tous les cas, Jésus a raison lorsqu'il dit... Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous croyons par la grâce de Dieu. Et dans son amour, il nous a rendus capables de croire à cette vérité de l'esprit, d'adoration, en esprit, en vérité.